Europe 1. C'est arrivé demain, on se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bien plus qu'un simple mur, il a été le symbole pendant près de 30 ans du clivage politique et idéologique de la guerre froide. Et sa chute en novembre 89 a changé la face de l'Europe et du monde. Mais avant de rappeler la stupeur de son effondrement, il faut se souvenir du choc de son édification. C'est dans la nuit du 12 au 13 août 61 que le gouvernement est-allemand érige une séparation pour empêcher l'exode massif de ses ressortissants vers l'Ouest. Envoyé spécial d'Europe 1 à Berlin, Claude Guillaumin.
Berlin est vraiment coupé en deux. Le rideau de fer est tombé à la limite du secteur soviétique et des secteurs occidentaux. Un rideau de fer constitué pour durer. Des poteaux en ciment de 2 mètres de haut, reliés par 7 rangées de fils de fer barbelés. Les routes, les rues sont barrées par des chevaux de frise et des barricades de pierre. Ici Claude Guillaumin qui vous a parlé de Berlin, Europe numéro 1.
Bonjour Michel Meyer.
Bonjour.
Vous avez été le correspondant d'Antenne 2 et de Radio France en Allemagne pendant une quinzaine d'années jusqu'en 86. Vous avez connu ce Berlin coupé en deux. Ça restait un traumatisme pour les Berlinois.
C'était à l'époque un traumatisme. On changeait de monde à partir du moment où occidental, on franchissait le checkpoint Charlie et où on observait les Vaupeau qui, avec des miroirs, essayaient de savoir ce qu'il y avait sous la caisse de votre voiture.
Les Vaupeau, c'était les policiers.
Les policiers. Et donc, il y avait, non pas un stress, mais un sentiment surréaliste chaque fois que je franchissais ce mur, dans un contexte où, à l'époque, j'avais évoqué les ventes de prisonniers politiques par les Allemands de l'Est, au kilo en quelque sorte, et à la compétence et au niveau des études. Et j'allais voir donc les avocats qui s'occupaient de cela, et j'en menais pas large à certains moments. Voilà.
9 novembre 89, donc 28 ans après, ce que vous rappelez avec François Desnoyers dans « Mur de Berlin, le monde d'après » qui paraît chez Larousse, Michel Meyer, c'est que le mur tombe par inadvertance. C'est la bévue d'un apparatchik Günter Schabowski qui entraîne la foule à briser le rideau de fer.
Vous l'avez dit, et ce Günter Schabowski, en définitive, il a été induit en erreur par le numéro 1 de l'Allemagne de l'Est de l'époque, à savoir Egon Krenz, qui, ayant besoin d'argent et de fonds venant de l'Ouest, comme c'est le cas d'ailleurs depuis plusieurs années à l'époque, fait en sorte d'offrir à l'Allemagne de l'Ouest de nouveaux postes frontières qui permettront la fluidité entre les deux Allemagnes de façon plus humanitaire.
De nouveaux points de passage.
De nouveaux points de passage. Et bien entendu, lorsqu'il prend son communicateur en chef, c'est-à-dire Schabowski, il lui raconte cela, mais de façon insuffisante. Il ne lui dit pas que c'est pour demain ou après-demain. Il lui dit, sans trop lui dire ou en s'exprimant mal, qu'importe, il lui dit que c'est dans les prochains temps et c'est la monnaie d'échange. Sauf que Schabowski, il n'a pas compris cela. Et dans la précipitation, il se rend dans cette fameuse conférence de presse.
Devant le parterre de tous les journalistes étrangers.
Journalistes étrangers, et il n'a pas l'habitude du maniement avec des journalistes étrangers, puisque c'est des béni-oui-oui qu'il a normalement face à lui. Et là, il commet la faute dramatique à une question du journaliste de l'agence de presse italienne ANSA. Il répond, pressé dans ses derniers retranchements, abso forte,
donc
c'est tout de suite. Et l'erreur, mais tout le monde ne réagit pas de façon aussi rapide que cela.
Et il ajoute, sans délai.
Et dans ce contexte-là, bien entendu, les journalistes occidentaux qui sont là, eux-mêmes ont un temps de retard, parce qu'ils se disent, ce n'est pas possible que ce soit aussi rapide que ça. Et dans ce contexte-là, le journaliste de l'agence ANSA a un appel de son rédacteur en chef qui lui dit « c'est une connerie, tu te tais, etc. » Ce qui fait qu'il sera doublé par Associated Press. Et dans ce contexte-là, la crédibilité d'Associated Press fait que c'est béni. Le news est béni à partir du moment où le sceau américain, du grand professionnalisme américain, est marqué par le collègue.
C'est un point intéressant de votre récit, Michel Meyer, parce que l'emballement ne vient pas des chaînes d'info continue qui n'existaient pas à l'époque, mais des agences de presse. Et à 19h04, c'est un flash d'AP, d'un société de presse qui annonce...
Rien à dire d'autre.
En extrapolant un peu, la RDA ouvre ses frontières, c'est le titre du flash. Et donc la nouvelle se répand, la foule aussi.
Avec, bien entendu, la télévision est-allemande qui reprend la nouvelle en premier, avant que les chaînes occidentales, et notamment ouest-allemandes, osent mettre leur grain de sel et, bien entendu, valider cette information. Et, bien entendu, ce ne sera qu'à partir de 9h30 que les premiers Allemands de l'Est se manifesteront dans les rues adjacentes du mur, au niveau de pratiquement tous les points de passage de Berlin, avec notamment un monsieur que j'ai rencontré par la suite qui s'appelle Schwanitz, qui était le numéro 2 de la Stasi à l'époque, le numéro 1 étant le monstre qui s'appelait Milke. Eh bien, ce monsieur m'a dit qu'il était en train de dîner chez lui et il disait quelle est cette foule qui est en train de traverser et de se manifester, etc. Il n'était pas au courant et il a appelé Milke pour lui dire ce qui se passait, et Milke non plus n'était pas au courant. C'est-à-dire que toute cette effervescence médiatique a bouleversé la logique de la machine médiatique et a fait en sorte que tout le monde a été tourneboulé.
Voilà. Alors, le sens commun nous dit aujourd'hui que la chute du mur de Berlin est la cause de l'effondrement du bloc communiste, mais vous soulignez dans votre livre, et je pense à juste titre, non, Michel Meyer, que la chute du mur est sans doute... La conséquence de sa déliquescence, parce qu'il faut le rappeler, la RDA à ce moment-là est au bord de la faillite.
Absolument, il est au bord de la faillite et il est au bord de la faillite depuis plusieurs années. Il y a eu à deux reprises des factures et des notes de l'ordre du 1,5 milliard de Deutschmark à l'époque qui ont été offertes à l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest pour renflouer la Banque centrale de l'Est. Et au-delà de cela, il y a eu également... pour comprendre ce qui s'est passé au niveau du mur de Berlin et de la chute que l'on évoque, il y a eu quelque chose de fondamental. Et un acte commis le 4 avril 1989. Alors, à ce propos, je dis simplement une chose. Moi, je n'ai rien compris au moment de la chute du mur
c'est
de Berlin.
C'est la Hongrie, c'est ça ?
L'histoire de la Hongrie. Ouais. Je n'ai rien compris au niveau de la chute du mur de Berlin et j'étais vexé comme un pou de n'avoir rien compris. Donc, j'ai fait le maximum pour que, en revenant en arrière, je comprenne un certain nombre de choses. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que le 4 avril, il y a Alfred Herrhausen, le cerveau stratégique de Helmut Kohl, qui est dans le bureau de M. Nemetz, c'est-à-dire le Premier ministre hongrois, avec Horst Telchik, le conseiller diplomatique de Kohl, et qui met 1,5 milliard d'euros, de Deutschmark sur la table. Et ça, c'est fondamental, parce qu'après, en avril, il se passera des choses au niveau de la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. Il se passera d'autres choses dans le courant de l'été, souvenons-nous, où la perméabilité du rideau de fer a été établie à plusieurs reprises, d'où un autre effet d'entraînement qui a succédé avec l'envahissement des ambassades d'Allemagne, des Allemands qui prenaient leurs vacances sur les bords du lac, Allemands de l'Est qui prenaient leurs vacances sur les bords du lac Balaton, vous voyez. Et cette problématique est née de là.
Je vous interromps, Michel Meyer, pour vous présenter celle qui est votre invitée à vos côtés, parce que cette déliquescence du bloc communiste à laquelle a contribué un homme dont on a longtemps connu que le surnom Farewell, agent du KGB qui a livré au service français une bonne partie du réseau d'espionnage industriel déployé en Occident. Bonjour Michel Fine.
Bonjour.
Ancienne d'Antenne 2, vous aussi, et de France 2. Vous avez réalisé un document passionnant, Farewell, l'espion qui aimait la France, diffusion ce soir sur France 5 à 22h30, pour lequel vous avez retrouvé tous les acteurs encore vivants d'une histoire qui a changé le cours de l'histoire. En France, en Russie, aux États-Unis, les patrons de la DST, l'officier traitant de Vetrov, sa femme et son fils, les conseillers de Reagan. On en parle dans 1 minute 30.